Radio Classique, les spécialistes.
Voilà, nous allons revenir avec Emmanuel Faux donc, et Dimitri Pavlenko sur la passation de pouvoir, mais surtout sur les décisions qui ont été prises par Joe Biden, et avec Dimitri, évidemment, sur la situation financière de la France, qui, c'est normal, on aide les Français en période de crise, crise terrible, mais l'addition commence à être absolument phénoménale. Emmanuel, quels sont les dossiers chauds et les premières urgences de Biden, le nouveau, le 46e?
Alors, ça correspond, Guillaume, à la quinzaine de décrets et de proclamations, comme on dit aux États-Unis, prises depuis hier après-midi par Joe Biden. Alors, un mot pour expliquer pourquoi il prend des décrets, parce que ça lui permet de ne pas passer par le Congrès, même s'il a la majorité dans les deux chambres. Ça va libérer le Congrès pour éventuellement poursuivre la procédure d'impeachment et destitution de Donald Trump, et ça permet d'agir tout de suite dans l'urgence. Alors justement, ces urgences, elles sont d'abord d'ordre sanitaire, évidemment, avec la crise du Covid et plus de 400 000 aux États-Unis. Et la première décision prise hier, c'est le port du masque obligatoire dans tous les bâtiments fédéraux, les bâtiments publics du pays. Avec un paradoxe, c'est qu'évidemment, quand vous avez chaque État qui est libre de prendre ses décisions localement, et bien vous avez des endroits où dans les bâtiments publics, il faudra porter le masque dans certains États américains, et dans d'autres, dans les bâtiments privés, on fera ce qu'on veut. Alors ensuite, il y a les décisions qui sont de l'ordre, je dirais, du retour des États-Unis sur la scène internationale dans le jeu multilatéral, comme on dit, avec d'abord cette décision évidemment spectaculaire qu'on attendait, qui était annoncée depuis le 3 novembre, le jour de l'élection. C'est le retour des Américains dans l'accord de Paris de 2015 sur le climat, qui a été tout de suite salué d'ailleurs par Emmanuel Macron par un welcome back dans son tweet d'hier. Le retour aussi des Américains annoncés dans l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ça c'est très important. Des mesures d'ordre environnemental, parce que Donald Trump avait beaucoup déréguler toute une série de mesures d'ordre environnemental. Il y en a une notamment qui ne va pas faire plaisir d'ailleurs aux voisins canadiens, Justin Trudeau, on commence à l'entendre, c'est la révocation de l'autorisation qu'avait donnée Donald Trump de construire un oléoduc géant, vous savez, le fameux Keystone XL entre les États-Unis et le Canada, qui visait à exploiter le pétrole de l'Alberta. Évidemment, les Canadiens ne sont pas contents que ce projet reste en rade. Et puis alors, il y a toute une série de mesures d'ordre intérieur ou bilatéral. Il y a la suspension, je l'oublie pas, de la construction du mur de séparation, évidemment, avec le Mexique et tout le financement qui va avec par le Pentagone. Il y a la prolongation du moratoire qui concerne les expulsions de logements et le remboursement des prêts étudiants. Et puis, il y a des décrets pour lutter contre les inégalités raciales.
Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les mois qui viennent, car effectivement, tout ça, ce sont des décisions, ce sont des décrets. En gros, c'est une sorte de ouf de soulagement pour une partie des gens... mais la lutte va être quand même extrêmement compliquée, notamment à cause du Sénat, parce que ça ne va pas être simple. Et quels sont ceux qui, dans le monde, au fond, voient l'arrivée de Biden? Parce qu'en France, on l'accueille les bras ouverts. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui considèrent que l'arrivée de Biden est peut-être problématique?
Alors, en France, on l'accueille les bras ouverts, et d'une manière générale, on peut dire, Guillaume, en Europe, tout le monde se réjouit. Vous avez cette phrase très explicite d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de Bruxelles, qui dit « L'Europe a de nouveau un ami ». Et Angela Merkel, la chancelière allemande, qui dit que l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche va permettre d'écrire un nouveau chapitre de l'amitié avec les États-Unis. Bon, tout le monde est content, l'Italie, la Grande-Bretagne, évidemment. Deux exceptions effectivement notables, c'est d'abord l'Iran. L'Iran qui dit que la balle est dans le camp de Joe Biden. Et l'Iran, visiblement, si vous voulez, attend une décision importante, c'est que les États-Unis reviennent dans l'accord sur le nucléaire de 2015 qu'ils avaient quitté. Donc il y a une espèce d'attentisme, mais quand même plutôt positif vis-à-vis de l'arrivée de Biden. Et puis il y a la Russie, où là, le Kremlin dit, je le cite, les relations États-Unis-Russie dépendent de la volonté politique du président Joe Biden. Mm-hmm. Cela ne changera rien pour la Russie, qui poursuivra son existence en cherchant de bonnes relations. Bah, ça s'explique par le fait, vous savez ce qu'on avait dit sur le rôle qu'avait pu jouer Moscou dans l'élection de Donald Trump contre Hillary Clinton en 2016, et ça explique donc cette réaction un peu tiède des Russes ce matin.
Voilà, les chiffres, nous passons au dossier chiffré. Je voudrais quand même rappeler, concernant le plan de relance américain, 1550 milliards d'euros ont été mis sur la table. Nous arrivons au dossier français. Merci Emmanuel, avec vous Dimitri. Olivier Dussopt est donc dans les échos ce matin. La phrase qui est retenue, c'est « Il faut que 2021 marque la sortie du quoi qu'il en coûte ». Les chiffres, ils sont massifs, puisque le déficit de l'État, c'est maintenant 180 milliards.
Ouais, 180 milliards pour 2020. Notez que c'est moins important que ce que l'on redoutait. Hein. Initialement, le gouvernement pensait qu'on serait à 220 milliards de déficit. Fin 2019, on pensait qu'on serait à 93 milliards. Bon, on n'avait pas anticipé la crise du Covid. Alors, Olivier Dussopt, il voit donc la fin du quoi qu'il en coûte cette année. C'est quand même, on mettra un bémol quand même, et il le reconnaît lui-même. Il dit bien sûr, tout ça est indexé à la résolution de la crise sanitaire. Or, vous avez vu tout ce qui se passe autour des variants. On annonce une troisième vague, sans doute plus haute que les deux précédentes, du fait de ce variant britannique qui sera majoritaire, nous dit l'Inserm à l'horizon de la mi-mars. Bon, il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Mais alors, ce quoi qu'il en coûte, très bien, il faut en sortir, ça coûte très cher aux finances publiques. On sent que la France a écouté ce qu'a dit le Fonds monétaire international il y a deux jours, hein, qui a dit bravo, vous avez extrêmement bien géré la crise, tout ce que vous avez fait, les prêts garantis par l'État, ça a bien fonctionné, le chômage partiel, etc. Mais bon, vous avez quand même un problème endémique d'endettement, de dépenses publiques. La France, il faut faire quelque chose. Donc on sent qu'Olivier Dussopt entend ça, il sait que les marchés aussi sont pas loin derrière. À Bercy, on écoute ce que disent les marchés qui pour le moment ne se manifestent pas. Il n'y a pas d'attaque sur la dette française. Hein. On a emprunté encore sur 50 ans 7 milliards d'euros, pas plus tard qu'hier, à un taux de 0,6%. 0,6% sur 50 ans, c'est quand même assez incroyable.
Si on pouvait obtenir ça, on irait bien. Hein.
Ah oui, ça c'est clair.
Les affaires, tous les trois.
Vous pourriez acheter plein de trucs avec tout ça. Non, mais la vraie question, c'est ce que dit Olivier Dussopt, c'est le défi d'exécution de la sortie du quoi qu'il en coûte. Évidemment que vous ne pouvez pas du jour au lendemain couper comme ça toutes les aides que vous accordez aux entreprises, les aides accordées aux ménages également. Donc, comment va-t-on opérer cette transition ? On sent que l'état d'esprit du gouvernement, c'est de dire, il y a le plan de relance, on est dans l'urgence.
Un message politique, en fait.
Voilà. Il va falloir tuiler tout ça pour que cette sortie du quoi qu'il en coûte se fasse de manière douce. On note quand même quelque chose de très intéressant, c'est l'asymétrie de la crise. On voit qu'il y a des secteurs qui sont beaucoup plus durement touchés. Prenons l'exemple des commerces, quand par exemple la construction, ça s'en sort pas trop mal. Et il y a une asymétrie dans l'asymétrie, et ça commence à être très visible, c'est qu'aujourd'hui, c'est les petites boîtes qui trinquent. Vous voyez, sur les prêts garantis par l'État, on attend un taux de défaut de l'ordre de 4 à 7%, dit BPI France, sur les montants globaux. Mais en réalité, c'est 4 à 7% sur les montants, c'est-à-dire aux alentours de, allez, entre 5 et 13 milliards. C'est les petites entreprises, les plus petites, qui vont avoir des problèmes. Jusqu'à 9 sur 10 ne pourront pas les rembourser, nous disait hier Guillaume Pépi.
Voilà, nous faisons le lien maintenant entre l'économie et la littérature, puisque le Figaro sort un palmarès exclusif, le Figaro, avec GFK. Devinette pour tout le monde, vous allez donner la réponse. Quel est l'auteur français qui vend le plus de livres ?
Guillaume Musso.
Guillaume Musso, bingo, voilà. 1,5 million.
J'ai lu pas le reste.
Et alors donc, Veilgerny, c'est tous ceux qui suivent derrière, sont à quelques exceptions près des gens qui sont assez peu connus. Virginie Grimaldi, deuxième, 827 000 exemplaires. Michel Dicker est cinquième, donc, avec 735 000. Marc Lévy, 675. Et puis donc, des gens qu'on connaît pas du tout, hein, Aurélie Valogne, Marie Barnadette Dupuis. Et sorti donc de la liste de Michel Houellebecq, en attendant son prochain livre. Ne sorte. Voilà pour ce palmarès. Vous le trouverez dans le Figaro. Il est 7h47. Il est impatient. L'OM a perdu, mais il est là avec son journal imprévisible. Voici.